Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, c'est Abdourahmane Dia, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'À votre avis, et nous consacrons aujourd'hui cette émission à la promotion des langues nationales et dans leur introduction dans le système éducatif. Vous le savez certainement, le Swahili, une langue très parlée en Afrique de l'Est et également en Afrique centrale, sera bientôt enseignée dans les écoles en Afrique du Sud à partir de 2020. Donc, c'est une décision du gouvernement sud-africain et le politicien et opposant sud-africain Julius Malema propose même que le Swahili soit la langue officielle du continent. Alors, que pensez-vous de la promotion des langues africaines à côté des langues étrangères? Leur introduction dans le système éducatif, comme c'est déjà le cas dans certains pays, pour certaines langues en tout cas. Est-il possible d'avoir une seule langue officielle? Voilà autant de questions que nous allons aborder avec vous, les auditeurs. Je rappelle le numéro, c'est le 001-202-205-2633. Nous avons reçu déjà beaucoup de commentaires sur notre page Facebook. J'ai avec moi dans ce studio mon collègue Patrick Nduimana du service Swahili de la VOA. Patrick, bonsoir.
Bonsoir.
Alors avant de prendre nos auditeurs, déjà, parlez-nous un peu de l'expérience du Burundi et du Rwanda, deux pays que vous connaissez bien. Dans le système éducatif, les langues nationales sont introduites dès l'école primaire, n'est-ce pas?
Oui, au Burundi, par exemple, à côté du Kirundi, qui est la langue nationale, qui est enseignée dès l'école maternelle, l'école primaire, jusqu'à l'école secondaire, depuis un certain temps, les autorités, le gouvernement ont décidé d'introduire aussi le Swahili comme une langue d'option, mais qui est enseignée aux enfants, qui est enseignée au niveau du primaire et au niveau du secondaire, dans le souci justement de faciliter la communication, parce que le Burundi est membre de la communauté de l'Est africaine, et cette communauté-là, il y a beaucoup de pays qui utilisent déjà le Swahili comme langue nationale, notamment la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda aussi. C'était plus pour faciliter la communication entre le peuple burundais et les citoyens des autres pays membres de la communauté.
Et peut-être le commerce aussi.
Le commerce aussi. Et dans l'histoire, le Swahili est connu comme une langue de commerce parce que on nous dit qu'elle a été introduite par les premiers commerçants qui sont venus au niveau de Zanzibar pour faire du commerce, mais aussi dans le cadre de la traite des esclaves, et comme aussi le Swahili emprunte ou a emprunté beaucoup dans l'arabe. Donc ça a facilité la communication entre ces commerçants arabes, mais aussi les peuples indigènes de cette région-là.
Mais ça s'arrête à l'école primaire, c'est ça, l'enseignement des langues nationales?
C'est à partir de l'école primaire, mais ça va jusqu'à l'université. Par exemple, l'université du Burundi, le Swahili, comme il est comme le Kirundi, bien sûr, il a une grande part dans les cours enseignés à l'université, mais le Swahili est enseigné comme cours d'option à l'université.
D'accord. Ouais. Alors, nous avons notre premier auditeur, Thierry, depuis Bujumbura, justement. Thierry, bonsoir.
Bonsoir, Patrick.
D'accord.
Bonsoir.
Vous dites que c'est une très bonne initiative, on vous écoute.
Oui, mais ça devrait être une très bonne initiative que, par ailleurs, tous les présidents, tous les dirigeants africains devraient prendre. Mais le problème, en Afrique, c'est d'abord limiter les cultures des étrangers. Le problème des étrangers, par exemple, si vous allez voir que les Chinois, aujourd'hui, ils exercent une influence très forte dans les écoles secondaires, même les primaires, même les universités. Ils essaient donc de forcer les Burundais, de les amener donc à apprendre le chinois. Mais ce qui me frappe le plus, c'est bien Patrick qui vient de le dire. Au Burundi, on enseigne le Kirundi depuis l'école primaire jusqu'à l'université même. Mais le problème, vous allez voir que même au niveau des discours qui sont pris par des dirigeants, vous allez trouver que le français prend beaucoup plus de temps par rapport au Kirundi. Et vous allez aussi remarquer qu'au niveau des lois, au niveau des règlements, peut-être nationaux ou même tant d'autres, vous allez trouver que la plupart de ces lois sont votées et ces lois sont écrites dans les langues étrangères, par exemple.
Les langues étrangères.
La langue.
D'accord. Merci beaucoup en tout cas Thierry d'avoir appelé. Nous étions en direct de Bujumbura. Nous avons Steve Boko depuis Abidjan, c'est ça, Steve?
Oui, bonsoir monsieur Jolari.
Oui, bonsoir. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a l'introduction des langues nationales dans le système éducatif?
Non, ici, je n'ai pas encore vu cela, mais le gouvernement plutôt, il avait pris cette décision en temps pour dire que nous disions les enseignants doivent enseigner les langues nationales dans les écoles primaires et même dans les universités. Mais cette décision n'a pas encore effective sur le terrain. Donc pour cela, je ne pense qu'une seule langue ne peut changer ou imposer aux autres. Donc, comme suggestion, je pense qu'il doit falloir qu'on essaie de prendre chaque région. Parce que si nous prenons le cas de la région de la Niédi, ici en Côte d'Ivoire, où on parle l'Atié, il doit falloir que les enseignants Atié doivent enseigner la langue vernaculaire aux apprenants qui sont dans la localité. Et idem pour les autres localités du pays. Sinon, imposer une langue aux populations, oui, ou le peuple, je pense que cette vision soit utopique.
Oui.
Donc, il doit falloir qu'on essaye de pouvoir prendre localité par localité en vue de pouvoir avoir un retombé fiable à cette décision.
Sinon, oui, justement, Steve, vous évoquez là un sujet très intéressant. Il y a des pays où on parle des dizaines et des dizaines de langues. Ça peut être plus compliqué que dans des pays où on a peut-être une ou deux, maximum trois grandes langues, comme le Burundi, par exemple. N'est-ce pas, Patrick?
Oui, en fait, c'est vrai. Il y a cet esprit-là qui est parmi les leaders de beaucoup de pays africains, comme quoi il faut qu'il y ait une langue officielle. D'ailleurs, le swahili, maintenant, il est utilisé comme langue officielle au niveau de l'Union africaine. Donc, à côté du français, de l'anglais, qui, pour certains, sont imposés comme des langues officiel au niveau des institutions internationales, mais aussi il faut que le swahili soit une troisième langue, par exemple, utilisée même au niveau des Nations Unies, et aussi comme étant une identité propre aux peuples africains.
D'accord. Merci. Nous avons, je crois, Brahim Doumbia, depuis le Mali.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
Voilà. Brahim, on vous écoute.
Je pense que l'introduction de la langue nationale a été salué ou est salué, je dirais, ici au Mali, puisque cela, il y a quelques années de cela, et même à l'université aussi, cela est enseigné. Et le swahili, quand même, je n'en connais pas trop, mais si cela doit être vulgarisé, si cela est quand même doit être enseigné dans les écoles en Afrique du Sud ou même dans la sous-région, je pense que c'est une bonne idée. Et puis c'est de mon point de vue quand même, selon votre publication, il y a beaucoup de gens quand même qui comprennent cette langue-là. Et si cela est vulgarisé, je pense que cela serait un peu mieux, puisque aujourd'hui on a tendance à enseigner les langues étrangères, à savoir l'allemand, le chinois, le russe ou l'anglais. Alors que si on donne de la valeur à notre langue locale, je pense que cela serait mieux. Le cas du Mali, je pense qu'au Mali, par exemple, le Bambara, qui est une langue quand même parlée par plus de 60% de la population malienne, ou même, je dirais, 70% de la population malienne, quand tu es à Kayi, tu es à Sigasso, ou même à Gao, les gens s'expriment en Bambara. Si cette langue, quand même, est la première langue parlée ici au Mali, je ne pense pas que les gens vont se poser, même si cela est au niveau supérieur, je ne pense pas que cela quand même un frein au développement. Mais je pense qu'il faut mettre quand même l'outil nécessaire à la disposition des enseignants. Il faut les former.
Il faut des enseignants formés. Hein.
Effectivement.
Tout à fait. Merci beaucoup, Brahim Doumbia. Alors, Patrick, justement, il y a la question de la formation et on voit que peut-être poursuivre l'étude d'une langue nationale jusqu'à l'université, ça peut aussi avoir un effet sur la qualité de l'enseignement ou de la formation de façon générale. On l'a vu dans certains pays où ils ont eu du mal à faire cette transition entre les langues occidentales qu'ils avaient l'habitude d'enseigner. Et quand ils ont pris la décision d'introduire les langues nationales, la formation a pris un coup.
Oui, c'est ça le problème maintenant. On n'a pas d'enseignement, on n'a pas plutôt d'enseignants qualifiés pour enseigner le Swahili au niveau des écoles primaires, même secondaires. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Il y a des enseignants qui reçoivent une formation de 2 semaines ou tout au plus 1 mois. Et après 1 mois, ils viennent alors enseigner le Swahili aux enfants du primaire. Donc, ça ne suffit pas. C'est vraiment l'handicap principal pour le moment.
D'accord. Et on me signale que nous avons un appel du Sénégal. Soumaïla Kone. Soumaïla, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, votre point de vue, je sais qu'au Sénégal, ce débat aussi se pose et qu'il y a certaines langues nationales qui ont été sélectionnées, peut-être pour être introduites dès l'école primaire.
Bon, tout à fait, mais la langue première, surtout celle qui est parlée par la majeure partie ici, c'est le Wolof.
Le Wolof.
Voilà, mais il y a aussi le Soudé, c'est-à-dire le Tonar, et le Serer aussi, et même les langues de Casamance, et le Diola.
Le Diola, absolument. Et quel est votre point de vue justement sur ce débat? Est-ce qu'on devrait pousser vers cela, encourager les États à introduire ces langues nationales dès le bas âge à l'école?
Moi, selon moi, c'est la meilleure des idées qu'il faut que l'Afrique se donne la main pour le faire. Parce que c'est tous les pays français, les pays francophones, je veux dire, et qui parlent le français. C'est-à-dire qu'on se laisse dominer sur beaucoup de choses. Donc moi, je préfère, quelle est vraiment la meilleure des choses de voir ton enfant qui parle de ta langue et qui l'écrit? Il n'y a pas plus meilleur que ce que tu peux voir dans la société, dans la vie courante, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Soumaïla Kone. Et nous allons juste à côté, au Mali, retrouver Haruna Traoré. Haruna, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre point de vue sur la question?
Moi, mon point de vue sur la question, c'est que le développement d'un pays passe d'abord par la valorisation de sa langue nationale. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans pourtant développer sa langue nationale. Parce que c'est la langue nationale qui met en exergue les us et coutumes du pays. Vous conviendrez avec moi que si on prend toutes les langues nationales au monde, l'anglais est la langue la plus parlée au monde. Après l'arabe, après le mandarin, après l'espagnol, et le français vient en 5e position. Or, il se trouve qu'en Afrique ici, l'Afrique est un continent avec ses 53 États, plus de 2 États en phase de reconnaissance. Comment se fait-il qu'il y a 5 langues premières qui sont la plus parlées au monde et qu'il n'y a aucune langue africaine qui est là-dedans? Pour moi, pour qu'un pays puisse bien se développer, il faut d'abord qu'il se mette d'abord le développement de sa langue. Un exemple, vous prenez tous les bons documents ou tous les meilleurs documents du monde, que ce soit en politique, en économie, et tout ça. Tous ces documents-là sont en anglais. Or ici normalement, on a besoin de ces documents-là.
Tout le monde n'a pas accès à ces documents. Tout le monde ne peut pas les comprendre parce qu'elles sont dans les langues étrangères. D'accord. Merci beaucoup, Haruna Traoré. Nous avons Ordi depuis le Congo-Brazzaville. Ordi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous soutenez cette idée d'avoir une langue commune. Ça, c'est un des autres aspects du débat.
Oui, j'apprécie ce monsieur sud-africain. Mais je m'irais l'Union africaine en particulier, le monsieur Fakimama, d'inviter nos chefs d'État africains de signer un accord pour qu'on puisse enseigner le Swahili et le Lingala.
Le Lingala, oui, qui est aussi une langue très parlée en Afrique centrale.
Oui, le Lingala. Mais pour moi, je me reconnais qu'on met le Lingala, la langue officielle de l'Afrique. Le Lingala est une langue de communion. Même j'avais parlé ici sur VO Afrique pour qu'on puisse enseigner le Lingala et Swahili. Bon, je dis chez nous les Africains, j'adresse aux Africains, Le Lingala est une langue bantou. Donc, je veux, nous les Africains, nous parlons ça comme notre langue officielle, surtout sur toute l'étendue du territoire africain. C'est ça.
Ok, c'est une très bonne idée. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans des frustrations si on veut imposer soit le Swahili ou le Lingala, Patrick, à tout le monde.
Oui, c'est ça le problème. Donc, si chacun amène sa langue préférée pour la faire une langue nationale ou commune au niveau de l'Afrique, ça devient problématique. Mais sinon, comme le Swahili, de toutes les façons, les statistiques montrent que le Swahili vraiment est parlé par des millions d'Africains. Aujourd'hui, on estime entre ça 20 millions et 150 millions d'Africains qui parlent le Swahili. Et je pense que, étant aussi une langue bantoue, qui a des similarités avec plusieurs langues bantoues, je pense que le Swahili serait le meilleur choix.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Mais en fait, il y a aussi l'avantage d'avoir cette diversité linguistique et culturelle,
oui.
Plutôt que d'imposer une seule langue. Non?
Donc, ce n'est pas une façon d'imposer. Donc, je pense que ceux qui proposent que le Swahili soit une langue commune utilisée au niveau des institutions africaines, comme l'Union africaine, entre les peuples africains, justement, ils veulent renforcer cette
intégration,
ils veulent renforcer cette unité entre les peuples africains, mais aussi en respectant les différentes cultures africaines.
D'accord, merci beaucoup. Nous avons Diarra Kanyoumé depuis le Mali aussi. Diarra.
Oui, effectivement, toujours dans mon village natal à Soninkeni. Bonsoir, Abdraman.
Bonsoir à tous, tous ceux qui sont à Soninkeni.
Ok, merci.
On vous écoute.
Ok, je pense que vraiment c'est une bonne initiative. Il faut imaginer d'aujourd'hui les moments que je fréquentais dans mon village natal ici. Donc,
et vous parlez quelle langue à Soninké? J'imagine le Soninké, n'est-ce pas?
Oui,
ou le Bambara?
Oui, c'est la Bambara. C'est okay. Partout au Mali. Donc je pense que vraiment les moments que je fréquentais, on parle langue bambara dans notre école primaire. Donc maintenant, je ne sais pas si le gouvernement malien a arrêté, parce que pour le moment, les fils de mes grands frères qu'ils ont à l'école d'aujourd'hui, ils ne parlent pas langue bambara dans leur école, et pourtant c'est très très important. Il faut imaginer que les Occidentaux aient quitté dans leur pays pour venir chercher au moins les livres de bambara au Mali ici, pour s'enseigner avec langue bambara. Donc je pense que vraiment c'est une bonne initiative. Mais d'aujourd'hui, quand tu rentres au moins dans certains services, si tu ne parlais pas langue française ou bien au moins l'anglais, je pense que vraiment tu es fait au moins rire et tu dis que non, tu es ignoré. Donc c'est pas normal aujourd'hui. Il faut imaginer que vraiment quand ton langue nationale, je pense que les pays aussi, ça ne marchait pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne fréquentaient pas.
D'accord.
Donc souvent même ils parlent. Dans les services à langue bambara. Donc si le gouvernement peut au moins s'accorder pour que non, les enfants d'aujourd'hui n'aient qu'à étudier leur langue nationale dans toutes les écoles primaires jusqu'à l'université, je pense que vraiment c'est une bonne initiative.
D'accord, merci beaucoup Diarra. Avant d'aller à Kinshasa retrouver Alphonse Mbouaki, Patrick, cet auditeur du Mali, parle un peu des avantages qu'ont ceux qui ne parlent pas les langues occidentales. Et c'est aussi une réalité.
C'est une réalité, justement. C'est vraiment un handicap sérieux. Parce que quand vous ne parlez pas français, quand vous ne parlez pas anglais, l'opportunité d'avoir de l'emploi, l'opportunité, mais aussi de voyager facilement, sans contrainte, vous voyez, c'est vraiment une difficulté. C'est pour moi raison pour laquelle ceux qui font la promotion d'avoir une langue commune, africaine, utilisée au niveau des intellectuels africains, donc ça pourrait quand même changer la donne.
Absolument. Mmh. Nous avons maintenant Alphonse Mbouaki.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Allô?
Oui, Alphonse, vous êtes en ligne.
Moi, je vais demander aussi la communication. Vous voyez, par exemple, lorsque nous assistons au débat parlementaire, si les enfants des nations, on parle en français. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils disent ça à ceux qui parlent français, aux intellectuels, comme ils disent ici. Donc, des débats dans les langues dont nous maîtrisons l'essence, les gens vont s'y intéresser, vont s'appliquer sur les questions importantes de la nation. Autre chose, lorsqu'on fait des référendums, par exemple, on soumet une question, un problème d'un pays au référendum, par exemple, il faut changer la constitution. Les gens votent seulement parce qu'en français, sans comprendre les articles qui sont mis dans cette constitution là-bas. Par exemple, le mandat du président est pour 5 ans, il faut seulement renouveler. Les gens ne comprennent pas parce que c'est en français. Même que c'est écrit dans nos langues nationales, je pense que pour voter, pour donner leur oui ou non, ce changement constitutionnel, sur le référendum constitutionnel, je pense qu'ils vont beaucoup réfléchir sur toutes les dispositions. Autre chose, vous savez que lorsque les Arabes, les hommes d'État arabes passent même à l'Occident, ils s'expriment en arabe, donc parce qu'ils ont valorisé leur langue, donc nous aussi, les Africains, nous devons valoriser nos langues pour permettre que. Allô?
Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alphonse, merci beaucoup. Mais justement, pour le cas du Sénégal, que je connais bien, Patrick, tous les politiciens aujourd'hui s'expriment en Wolof parce qu'ils veulent que leur message passe. Je pense que là aussi, ils ont commencé à comprendre.
Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que à travers aussi de privilégier les langues nationales, on coupe petit à petit l'union qui nous a été imposée avec le colonisateur, la langue qui nous a été imposée par le colonisateur. On change de mentalité, on oublie nos valeurs, notre culture. Donc, vraiment, en privilégiant les langues nationales, c'est quelque chose de...
Ça aide à la communication politique,
en tout
cas.
Oui, à la communication politique.
Mais aussi, Keita, je crois
les messages arrivent facilement à la population.
Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick. Nous avons Bakary Keita maintenant. Peut-être ce sera notre dernier auditeur.
Bonsoir.
Oui, bonsoir. On vous écoute.
Bon, moi, je crois que, c'est-à-dire, l'introduction quand même des langues nationales, de façon fortuite comme ça, ça crée aussi beaucoup de problèmes, hein. Moi, je crois qu'il va falloir passer d'abord à la formation d'avoir du personnel enseignant, essayer aussi d'éduquer même la population dans ce sens. Sinon, vraiment, essayer d'introduire tout d'un coup, vraiment, ça pose problème. Si je prends le cas du Mali, par exemple, ça existe dans certaines localités, quand même, dans les écoles primaires, par exemple, de la première année jusqu'en sixième année. Mais arrivé en sixième année, on stoppe, on ne continue plus. Donc ça ne fait pas aussi un effet. Ici également, c'est l'introduction aussi au Mali, ça pose problème, parce que dans certaines localités, vous verrez que la majeure de la population est bambara, dans l'autre côté, c'est des soninké. Est-ce que vous voyez?
C'est très intéressant, ouais. Ce que vous dites, ça va être difficile d'arriver à un consensus sur une langue unique. Merci beaucoup, Bakary. Je lis ce commentaire de Saint-Forien depuis la RDC. C'est possible d'avoir une seule langue pour tout le continent, car si toutes les nations se mettaient ensemble pour choisir une seule langue qui serait enseignée, ce sera possible et facilitera la libre communication. Et j'ai également Mav, toujours depuis la RDC à Kananga, au regard de la diversification des langues à travers le continent, il y a lieu d'estimer qu'il est difficile qu'une seule langue soit officialisée. Voilà, des points de vue très divergents, mais je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut au moins introduire les langues nationales dans le système éducatif. Voilà. Merci beaucoup à Patrick, mon collègue du service Swahili de la Voix de l'Amérique. Merci à tous les auditeurs qui ont appelé. L'émission, à votre avis, s'arrête ici. Merci à Sims Lumami et à Cheikh Thiero également. Merci à notre ami de la console, Dan Crafton, m'a-t-on soufflé. Merci, au revoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.